je suis Georges de Lyon depuis 5 ans, 6e année à Lyon maintenant, avec Jill et notre équipe qui est arrivée il y a 5 ans de Paris. On était 7 personnes, 7 adultes, 3 enfants très petits à l'époque. Et voilà, on a grandi un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est bon. Je pense que nous avons en tant qu'Église des défis tout à fait ordinaires pour une Église locale. Nous avons des joies ordinaires, merveilleuses pour une Église locale. Et nous avons un Dieu extraordinaire pour l'Église locale. Et du coup, l'Église grandit, elle va bien. Merci Seigneur, j'ai hâte d'entendre les nouvelles de ce qui se passe ce matin là-bas à Lyon. Et c'est une très belle ville, on aime beaucoup être là. Jonathan, il dit que, voilà, il n'est pas britannique, ou il est britannique, mais par erreur. Moi, par contre, je suis britannique, je suis fier d'être britannique, malgré le Brexit, etc., etc. Voilà, enfin, 8e écossais, mais 7-8e anglais. Et pour ceux qui sont là depuis assez longtemps maintenant, 11 ans, peut-être vous vous souvenez de notre fils Michael, qui était chez vous pendant une année, Erasmus, quand il était étudiant. Je peux vous assurer qu'il va très très bien. Lui et son épouse Ali et leurs deux enfants qui ont des noms français, mais on doit les prononcer en anglais. Donc ce n'est pas Rémi, c'est Rémi. Et ce n'est pas Amélie, c'est Amélie. Désolé, mais c'est comme ça. Le clavier anglais, n'existe pas des accents. Bon, c'est comme ça. J'aime beaucoup votre accent du sud. Et je ne peux pas faire une prédication avec cet accent-là, ni l'accent traditionnel français. Donc, vous avez un accent anglais ce matin. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Si vous avez une Bible, j'aimerais que vous trouviez Hébreux chapitre 11. J'ai préparé un petit PowerPoint et j'espère que je vais suivre plus ou moins ce qui va s'afficher. Il était une fois, un homme habitait dans une ville en Irak, près du fleuve Euphrate. Là, il adorait de nombreux dieux, dont le dieu lune, Sana ou Nana en sumérien. Abraham. Et un jour, le vrai Dieu, celui alors qui avait créé la lune, a parlé à cet adorateur de la lune en disant « Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens et allé habiter à Charan, ou Charan, Charan, je pense. Nous voyons dans Genèse que le père d'Abraham a pris son fils et d'autres membres de la famille, y compris Sarah, la belle-fille. Ils sortirent ensemble de cette ville dure en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Mais ils se sont arrêtés ailleurs, à Charan. Ils y habitèrent pendant, je pense, beaucoup d'années. Et de nouveau, un jour, Dieu parle à Abraham en disant, c'est le moment pour partir définitivement, de quitter ta patrie, ta famille, et aller une fois pour toutes au lieu où je te montrerai. Et donc Dieu parle. Et je pense qu'Abraham doit être pour nous un modèle. Nous pouvons être lui dans cette histoire, je pense. Il nous appelle. Il continue à nous parler. Et comme Jonathan vient de dire, vous êtes, nous croyons, à un moment peut-être tournant de votre existence, parce que toujours Dieu vous parle, il vous appelle à aller plus loin, comme il a fait avec Abraham. Donc, par la foi, Abraham obéit. Hébreux 11, 8 à 10 dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité, qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Au début, il se trouvait l'adorateur du Dieu Lune, dans une ville qui s'appelait Ur, U-R. C'était un endroit auquel tu voulais emménager plutôt que de quitter. Parce que cette ville-là était, selon les experts, selon les historiens, etc., une des villes les plus civilisées, riches, grandes probablement, du monde. Et ces citoyens ont dû être vraiment l'envie du monde entier. Mais Abraham l'a quitté. Et on doit se poser la question, mais pourquoi? Imagine que tu habites à une petite maison au Lavandou, 250 mètres carrés, avec deux piscines, etc. Cette pièce, et voilà, jardin, vue sur la mer, etc. Et un jour, tu décides de quitter pour aller, désolé si vous venez du Nord, pour aller dans un studio pourri en banlieue de Valenciennes. Comme d'ailleurs, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup le film Bienvenue chez les Ch'tis. Et est-ce que vous vous souvenez du nom de famille du manager de la poste? Il était Philippe Abraham. C'est intéressant. Alors, il a quitté voilà, sa maison dans le sud pour aller dans le nord. Et Abraham, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que moi, je le ferais? Il l'a fait. Pourquoi? Et lui, il ne sait même pas que Dieu lui a réservé un studio pourri. Ou une tente. Il ne sait rien. Il sait seulement que Dieu l'appelle. Et il part. Pourquoi? Parce qu'il possède quelque chose de hyper important, la foi dans la promesse de Dieu. Le moment que Dieu lui parle, lui, adorateur de lune, de Dieu de lune, il n'est pas en quelque sorte chrétien. Mais la révélation de Dieu vient. Et ça change tout au point qu'il quitte cette ville riche et toute sa vie. La foi est fondée sur la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, Abraham reste à jamais dans cette ville bien-aimée. Mais avec la parole de Dieu, tout change. Il est appelé à quitter. Et en même temps, Dieu lui donne, et on peut les voir en Genèse 12, cette promesse incroyable, extraordinaire. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Quelle promesse. Cette promesse extraordinaire. Et plus tard, il reçoit encore plus de promesses. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. La foi est un don. Et elle arrive, comment vous savez probablement, elle arrive par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si vous êtes ouvert à la parole de Dieu, vous aurez la foi. Voilà le point de départ de la foi. Et vous en avez besoin, et moi aussi. La parole de Dieu, Dieu lui-même. Et la Bible déborde de promesses merveilleuses pour ceux qui croient, pour vous et pour moi. Tu en connais certaines. Si ton ami, par exemple, te demande de lui citer quelques promesses bibliques, pourrais-tu le faire? Est-ce qu'on est vraiment au courant de toute la richesse des promesses de Dieu qui se trouvent pour vous et pour moi dans la Bible? Et voici quelques exemples. Et quand je regardais ces versets l'autre jour, j'ai eu la pensée qu'en fait, aujourd'hui, maintenant même, ces versets, ces promesses sont très pertinentes, voire prophétiques pour certains d'entre vous. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Est-ce que cette promesse est pour vous? Je serai pour vous, avec vous, tous les jours. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quelle promesse! Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il se peut que ces promesses, ou une d'entre elles, soient pour vous ce matin. Dieu parle. Et puis, il promet qu'il fera quelque chose. Et tu peux te confier à lui de la même manière ce matin, et en tant qu'église, vous pouvez vous confier à lui. La parole de Dieu vient pour vous, pour que vous ayez la foi pour l'avenir. Dieu est bon, il est puissant, il est fidèle pour le faire, pour accomplir ses promesses. Application pour moi et pour vous, passe tout simplement du temps dans la parole de Dieu. Et aussi développe une relation forte et proche avec le Saint-Esprit. Là, on a une formule incroyable. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ensemble en moi. Deuxième chose, alors la parole vient, la foi vient par la parole, et puis la foi répond. Et d'abord, la foi répond dans le cœur. Le cœur répond à Dieu et à sa parole, en humilité, oui, et en joie. Verset 8 dans notre passage hébreu, la foi d'Abraham l'amène à partir sans connaître la destination. Mais quelque chose a changé dans son cœur. La foi ne signifie pas que je sais tout, et que désormais je n'aurai pas de problème. Les détails manquent souvent ou toujours. Pensez à votre vie personnel. Les détails de l'avenir, on ne sait pas. Il peut y avoir de la perplexité dans la vie et l'incertitude. C'est normal. Ça fait partie de la vie ordinaire chrétienne. En fait, si j'avais un plan super détaillé des 10, 15 années qui viennent dans ma vie, je n'aurais pas besoin de la foi. Et Dieu, il est sage. Il sait que j'ai besoin de lui. Il sait. Donc, il ne me montre pas tout ce qui est devant moi et devant vous en tant qu'Église. Peut-être perplexité, incertitude un jour. Sans la foi, il est impossible à être agréable à Dieu. On a besoin de lui et de sa parole. Mais notre culture et notre nature humaine veulent vraiment nous convaincre de ne faire quoi que ce soit avant d'être sûr de la prochaine étape. Et si on devient sûr, ok, ça y est, on y va. Abraham n'était pas comme ça. Il est allé en obéissance. Un Dieu de notre siècle, le matérialisme, nous dit de ne croire qu'en les choses qu'on puisse toucher ou bien comprendre. Oui, on peut croire, ok. Abraham n'était pas comme ça. La foi ne se focalise pas sur la sécurité dans l'avenir, la prospérité assurée. Non, la foi, souvent, il faut écrire ce mot différemment, R-I-S-Q-U-E, la foi. Pour Abraham, c'était comme ça. Adorateur du Dieu lune, un jour et le lendemain, il suivait le Dieu vivant sans savoir où il allait. Quelle foi, quel risque, mais un risque avec lui, ça marche. Et Dieu l'appelle en fait, il a choisi d'habiter sous tente, plutôt que construire pour lui une maison, une cité, moyen en rien, ok, il y a du soleil, mais pas tout le temps, il pleut parfois. Et moi en tant qu'anglais, je peux vous assurer que camper, nous allons le faire l'est de l'Angleterre cet été. Bah, j'ai peur. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça parfois. Ou ailleurs, il y a des animaux sauvages qui peuvent nous attaquer comme ça. Donc pour Abraham, ce n'était pas évident. Habiter sous tente. Mais il voyait quelque chose d'autre. Une cité ayant des fondations solides. Donc il était content, pour le moment, d'habiter sous tente. Évidemment, il va vivre de rudes épreuves, c'est sûr. Mais il se confie à Dieu. Il se confie à la réalité que Dieu accomplira certainement ses promesses. Dieu a des promesses pour vous, ici et dans cette région. Pas encore, sans doute, accompli. Il est fidèle. Nous pouvons nous confier à lui. Il sait tout. Nous, l'avenir, la famille, les finances, l'église, la ville, il sait tout. Il est digne de notre confiance. Nous n'avons pas les détails, mais nous avons un appel à le suivre. Donc, à chaque fois, le choix nous se présente. Est-ce que je regarde à moi-même et à toute l'incertitude ou est-ce que je regarde plutôt à la fidélité de Dieu? Cet choix se présente à vous dans vos vies personnelles et en tant qu'Église. Et la troisième chose, la foi, elle arrive par la parole de Dieu. Elle répand d'abord dans le cœur. Et puis, elle répond en acte, action. Abraham quitte sa patrie, définitivement. Il quitte sa sécurité. Et en fait, ça n'a aucun sens sans Dieu. Mais obéir à Dieu, c'est le seul lieu sûr du monde. Donc, on y va. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Notre histoire, rapidement, peut-être vous savez, mais pour ceux qui ne savent pas, en 2008, on a déménagé pour habiter à Paris. On n'avait pas d'appartement, on n'avait pas de revenus. On passait, Julie et moi, on a passé 7 semaines en caravane, dans un camping au bois de Boulogne. Et en cherchant tous les jours sur Internet, à McDo, un appartement. Mais nous avions une parole prophétique donnée nettement à nous. Un ami à nous, un prophète, il nous a vu dans une espèce de vision, debout sur un balcon à l'étage, dans un immeuble. Et depuis le balcon, on donnait sur un parc avec un plan d'eau, etc. Et nous avons regardé le plan de Paris, sachant que l'église allait commencer dans un certain lieu et ne voulant pas être trop éloigné, etc. Et nous avons choisi, selon cette parole, que cette rue-là, rue Gazon, dans le 14e, devait être notre rue. Donc, on a cherché que ça pendant 7 semaines. Et un ami à moi, un jour, il m'a posé la question, ah, mais combien d'appartements avez-vous visité? 0. Mais après 5 semaines, dans une caravane de 5 mètres carrés, ouais, nous avions une parole. Finalement, un appartement, voilà, s'est libéré. Voilà, on a déposé un dossier qui n'avait rien. Et voilà, on a été accepté. C'était un miracle. Un miracle. Donc, on attend, oui, on est fou ou on a la foi. Et puis, on y va. Merci Seigneur. La preuve de l'évidence de la foi authentique chez vous et chez moi, et crois. Le fait que tu persévères dans la foi. Et Dieu vous appelle à persévérer et à aller plus loin ensemble dans cette région, dans l'évangélisation, dans la mission qu'il vous accorde, qu'il vous donne. Je pense qu'en réponse à ce message, il peut y avoir 3 réponses. En ligne avec les 3 endroits différents qu'on voit dans le passage. On commence à Ur, et puis à Charan, et puis finalement dans le pays de Canaan. À Ur, la réponse est pour vous, si. Vous ne croyez pas encore. Vous êtes un peu comme lui. Notons que Dieu ne dit pas à Abraham, de manière peut-être anglaise, mais en français, auriez-vous la gentillesse de bien vouloir mettre votre maison à la vente et puis, si tout se passe bien, vous pouvez aller? Dieu n'est pas comme ça. Dieu est souverain. Il est, comme on a chanté, le roi des rois. Et donc, lui, il donne un commandement. Il ordonne Abraham de faire quelque chose. Ça vient du maître de l'univers. Quitte ton pays. Quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Jésus, il était tout à fait la même chose. Fils de Dieu, bien sûr. Et donc, il dit à Simon, André, est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir me suivre? Non, il ne dit pas ça. Suivez-moi. Ça, c'est Jésus. Donc, si vous ne croyez pas en lui, il vous aime, il nous aime tous, mais il ne vous dit pas, si un jour il vous arrive à penser que devenir chrétien pourrait être assez intéressant, n'hésite pas à m'appeler. Jésus n'est pas comme ça, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il dit je réclame ton allégeance. Total. Repends-toi maintenant et crois en la bonne nouvelle. Je vous aime. Détourne-toi de tout péché et suis-moi de manière radicale. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est l'appel de Jésus. Donc, si vous ne croyez pas ce matin, il faut que vous écoutiez ce message. Je réclame ton allégeance totale. Je vous aime. Deuxième réponse sur 3, Charan. Qui est à Charan? Abraham, il reçoit l'appel de Dieu à Ur. Il arrive, il me semble, à convaincre au moins son père, sa femme, son neveu et peut-être d'autres de l'accompagner, mais il décide de s'arrêter, pas au bout du voyage, mais à moitié. Pourquoi? Son père ne veut-il pas continuer? On ne sait pas. Est-ce que les conforts de la ville paraissait plus attrayant que le désert. Peut-être. Mais qu'est-ce que Abraham faisait pendant ces années, toutes ces années à Charan? On ne sait pas exactement, mais tout ce qu'on sait, c'est que le moment qu'il part, il part avec tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires, dont il est devenu riche à Charan. Et Dieu n'est pas contre ça. Mais Dieu l'appelle quand même. Maintenant, quitte définitivement. Nous de même, parfois on commence à obéir à la parole de Dieu. Et après un moment, après un bout de temps, quelque chose nous arrive qui met le frein sur notre marche. Alors d'abord, je parle à vous de manière personnelle, individuelle. Peut-être c'est vous. Vous avez commencé à marcher avec Dieu, avec une foi, une passion, etc. Et après un bout de temps, peut-être maintenant, c'est un peu difficile maintenant. C'est un peu comme Charan, je pense. Jésus, le Seigneur, nous dit de dire au revoir aux choses qui nous étouffent et qui nous rend infructueux. Charan, allez plus loin. Donc, est-ce que tu t'es un peu immobilisé dans ta marche avec Dieu? Dieu te parle de nouveau ce matin. Et pour l'Église, il y a des aventures nouvelles devant vous. Pourquoi on veut imposer les mains sur de nouveaux anciens? Bien sûr, il faut absolument, impérativement, qu'ils aient ces qualifications notées par Paul pour nous dans 1 Timothée 3. Absolument. Sinon, on ne fait pas. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Pourquoi on a besoin de 4, 5 anciens dans cette église? On est une petite église quand même. Pourquoi nous avons besoin d'autres anciens dans cette église? Pour la mission qui est devant, pour les nouvelles actions, pour des nouvelles initiatives, pour des nouvelles implantations. Pourquoi nous avons besoin pour ça, pour lui, pour la mission? Si on voulait tout simplement rester là, une église, une centaine de super personnes, à jamais, bon, on reste quand même, on reste avec 2-3 anciens, pas de problème. Mais ce n'est pas notre vision. Ce n'est pas, j'espère, votre vision. Vous voulez aller beaucoup plus loin avec lui. Vous voulez voir d'autres villes impactées, affectées par l'évangile, même d'autres pays. Depuis là, nous avons besoin d'autres leaders. Vraiment. Et pour ceux qui ne sont pas appelés, pour l'instant, à être anciens, c'est-à-dire presque tout le monde ici, vous avez un appel aussi à aller plus loin avec Jésus, l'Église ici. Il faut que je m'arrête. Ce serait bien, comme David disait tout à l'heure, de prier, je pense. Les paroles qui venaient pendant notre temps de chant de louange visaient le cœur. Et si c'est votre cœur qui est touché ce matin, répondez pour recevoir ce qu'il a pour vous ce matin. Moi, j'aimerais m'arrêter tout simplement en priant pour l'Église, et puis je vais passer le micro à David pour que lui, il dirige un temps de prière pour ceux qui veulent répondre. Seigneur, merci pour ta parole qui ne change jamais. Merci pour l'appel que nous avons en Christ. Merci pour tout ce qui est devant nous en tant qu'Église, ici à Marguerite. Merci pour cette région nîmoise. Seigneur, merci pour les centaines de milliers de gens qui habitent dans ces villes et villages qui ne connaissent pas. Seigneur, merci pour le pays de la France qui a besoin de cet évangile. Et Seigneur, utilise-nous au nom de Jésus. Utilise-nous au nom de Jésus. Comme Esaïe, Seigneur, on veut te dire, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Envoie-nous. pour la gloire de ton Fils Jésus. Amen. Merci.